Et merci d'écouter France Inter, le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Boule de pétanque, morceaux de parpaing, cocktail Molotov, la rave vire au cauchemar. Un millier de fêtards face aux forces de l'ordre depuis hier soir dans l'hippodrome de Redon. Un jeune, la main arrachée, 5 gendarmes sont blessés. Chaud bouillant dans le stade, plus de 50 000 spectateurs. Sur la pelouse, 37 degrés au coup d'envoi, les Bleus en Hongrie cet après-midi. Pas de jauge imposée au pays de Viktor Orban. Deuxième match pour l'équipe de France, la grande chouchoute de cet Euro de foot. Et puis aussi l'Ouganda dans l'angoisse du Covid. Les salariés d'Europe 1 en grève pour la première fois dans l'histoire de la radio. Le rugby, La Rochelle en finale du top 14 du jamais vu. Et puis cette alerte aux orages dans 27 départements. Météo complète à la fin du journal.
Et puis l'invité ce matin, à partir de 8h20, question à Marie Pelletier. Elle est historienne, chercheuse, spécialiste du complotisme. Son livre « L'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée » vient d'être réédité aux éditions Les Petits Matins dans une nouvelle édition augmentée.
France Inter. Si la pression dégringole dans les hôpitaux, 1700 patients en réanimation, la tension monte sur le terrain. Le masque tombe en extérieur, le couvre-feu saute demain soir. Pour autant, vouloir relâcher tout trop vite, ça n'est pas non plus autorisé. Il y a en ce moment des affrontements très violents à Redon, en Ille-et-Vilaine. Les gendarmes ont empêché l'installation d'une rave party sur l'hippodrome. Un jeune a eu la main arrachée, 5 gendarmes sont blessés. Récit avec Clémence Gourdon-Négrini, France Bleu Armorique.
Depuis hier soir, 19h, un bon millier de fêtards essayent de s'installer du côté de l'hippodrome de Redon, à l'ouest de la ville. Les gendarmes interviennent, les premiers affrontements éclatent peu avant 1h du matin et se poursuivent encore ce matin. En tout, 250 gendarmes sont mobilisés. Sur Twitter, la préfecture explique que les forces de l'ordre font face à des jets de cocktails Molotov, des boules de pétanque ou encore des morceaux de parpaing. Au moins 6 personnes sont blessées, 5 gendarmes dont 3 ont été transportés à l'hôpital et un fêtard qui a eu la main arrachée pendant les affrontements avec la gendarmerie. En plus des forces de l'ordre, une quarantaine de pompiers est toujours mobilisée et 18 secouristes. Déjà au début du mois, la préfecture a pris un arrêté pour interdire un rassemblement susceptible d'avoir lieu dans la nuit du 12 au 13 juin. Elle appelait à la responsabilité collective et précisait que police et gendarmerie seraient pleinement mobilisées.
Et une précision à propos du football, il n'y a pas de jauge au pays de Viktor Orban.
Un match pour une place en huitième de finale, mais ce sera chaud pour les Bleus dans tous les sens du terme. Soleil de plomb annoncé cet après-midi sur Budapest. Et donc en face, une équipe de Hongrie qui joue à la maison dans un stade plein à craquer. Peut-être bien la rencontre piège pour l'équipe favorite de cet Euro de foot. Alexandre Vaux est notre envoyé spécial à Budapest.
Il y aura d'abord la chaleur, 37 degrés ressentis attendus au coup d'envoi, température que redoute le gardien et capitaine des Bleus, Golioris.
C'est un facteur important, ça rentre également en compte dans la préparation du match, que ce soit en termes de sommeil, de nutrition, d'hydratation surtout. Et on espère qu'il y aura un water break pendant le match, ça permettra de pouvoir s'hydrater un petit peu.
Et puis les Bleus vont devoir vite s'habituer à nouveau à jouer un match dans un stade plein. Le dernier pour les champions du monde français, c'était il y a un an et demi déjà. D'autant que cet après-midi, dans le seul stade de l'Euro autorisé à afficher complet, le public sera largement derrière les Hongrois. 56 000 personnes annoncées, dont 11 000 supporters magyars, pour 5 000 Français, dont Kylian. Ce supporter venu du Nord avec son club des Corsaires de Dunkerque s'attend à avoir chaud. Rien à voir avec le match face à l'Allemagne gagné mardi soir à Munich.
Ça va être une autre ambiance et on a déjà vu quelques vidéos contre le match du Portugal et c'était vraiment le feu, donc on a vraiment hâte d'y être.
Les Portugais mardi qui ont dû attendre les dernières minutes du match pour battre finalement la Hongrie 3-0. Budapest, Alexandre Vaux, France Inter.
Mais le nombre de supporters dans les tribunes influe-t-il sur le résultat? Ce n'est pas si sûr, nous dira Laetitia Bernard dans son esprit sport à la fin du journal. Hongrie-France, deuxième match des Bleus, coup d'envoi 15h cet après-midi. Et hier, surprise pour le choc Angleterre-Écosse, 0-0, des Anglais tenus en échec, pas certains de se qualifier pour les huitièmes. L'Angleterre qui doit accueillir demi-finale et finale de l'Euro dans son stade de Wembley à moitié rempli. Mais l'UEFA réfléchit, dit-on, à délocaliser ses derniers matchs en Hongrie, justement, là où il n'y a ni jauge, ni quarantaine imposée. Londres pourrait décider entre-temps d'alléger le protocole. Attention, vigilance, ont dit hier soir Angela Merkel et Emmanuel Macron, l'un de leurs derniers tête-à-tête avant le départ du pouvoir de la chancelière allemande à l'automne. Les deux chefs d'État inquiets de voir ces stades trop pleins et le manque de précautions dans l'Euro de foot alors que le virus Delta galope toujours, notamment au Royaume-Uni. Nous ne pouvons pas faire comme si l'épidémie était finie, avertit Angela Merkel. D'autant que l'inquiétude grimpe avec les contamination dans certains pays, comme en Afrique. 20 000 cas depuis début juin en Ouganda, où le gouvernement a interdit tout déplacement en voiture ou en transport en commun, a imposé le couvre-feu de 19h et fermé les lieux de culte. Dans la capitale Kampala, les habitants plongés dans l'angoisse. C'est un reportage de Lucie Mouillot.
Masque sur le visage et gel hydroalcoolique dans la poche, Joseph ne sort plus de chez lui sans prendre toutes les précautions.
C'est effrayant. Il y a beaucoup de morts. C'est devenu normal maintenant d'entendre tous les jours que quelqu'un est mort ou qu'il y a un enterrement. Même ce matin, j'ai appris que mon propriétaire était décédé dans la nuit. Ça fait très peur.
Dans les rues de Kampala, les masques cachent de nouveau les visages après plusieurs mois de relâchement. Aujourd'hui, Flavia respecte au mieux les gestes barrières.
Je fais beaucoup plus attention qu'avant. Par exemple, si c'est pour aller au travail, je sors, mais je ne sors pas tous les jours. J'essaie vraiment de me mettre à distance des autres le plus possible.
Les cas de Covid-19 enregistrés chaque jour sont passés d'une centaine à plus d'un millier en moins d'un mois. Les hôpitaux ont de plus en plus de difficultés à prendre en charge tous les patients. Rosemary Bianima, directrice adjointe de l'hôpital national de Mulago.
On est maintenant submergé par le nombre de patients dans un état très critique. L'hôpital est bondé, c'est assez traumatisant pour les soignants qui sont confrontés à des taux de mortalité élevés. Et la fatigue commence vraiment à se faire ressentir.
Le nombre de personnes hospitalisées a doublé en moins d'un mois, dépassant la barre des 1000 patients atteints du Covid-19 cette semaine. Kampala, Lucie Mouillot, France Inter.
L'épidémie qui s'emballe aussi de l'autre côté du globe. En Russie, à Moscou, plus de 9000 nouvelles contaminations en 24 heures, un record dans ce pays. La plupart des cas liés au variant Delta.
En France, Cédric Jubilard clame son innocence. Ça ne l'a pas empêché d'être mis en examen hier pour meurtre sur conjoint.
Aucune preuve matérielle, aucune trace non plus depuis 6 mois de Delphine Jubilard, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Son mari est donc présumé innocent, mais il a passé sa première nuit en prison, placé sous mandat de dépôt, car les enquêteurs ont relevé une série d'éléments troublants. Cédric Jubilard n'aurait pas vraiment cherché son épouse cette nuit-là. L'analyse du podomètre de son téléphone ne comptabilise que 40 petits pas. Quand les gendarmes arrivent sur place, il vient de lancer une machine. Il est en train de laver la couette de sa femme. Et puis son fils de 6 ans, des voisines aussi, indiquent une violente dispute. Réaction ce matin de Laurent Nakacharfi, l'avocat de la famille de Delphine Jubilard.
Depuis hier, la sœur et les deux frères donc de Delphine Jubilard ont été pour le moins surpris de l'avancement soudain de ce dossier, de la mise en examen de Cédric et de la motivation des juges, bien que nous n'ayons pas connaissance de la teneur du dossier, et que nous avons appris en écoutant Monsieur le procureur les éléments qui détenaient.
Et donc l'état d'esprit de vos clients aujourd'hui?
Ils sont un peu à la fois chaos, à la fois interrogatifs. Ils aimeraient surtout savoir où se trouve leur sœur. Parce qu'en l'état, il faut, je pense, très en garder. Il faut faire attention. Ils préfèrent ne pas prendre de position comme ils l'ont toujours fait, parce que à ce jour, tant qu'on n'a pas retrouvé leur sœur, il est difficile de se positionner. Ils sont pas seuls. Il y a deux enfants en question et je pense qu'il faut les protéger. Mes clients ne souhaitent pas se prononcer sur les éléments qui ont été évoqués par monsieur le procureur pour le moment.
Voilà la réaction de l'avocat de la famille de Delphine Jubilard avec nos confrères de France Info. On vote demain, premier tour des élections départementales et régionales avec protocole sanitaire imposé. Tout savoir sur le mode d'emploi et les enjeux aussi du scrutin sur franceinter.fr. Pas de régional, pas de journaux non plus ce week-end sur Europe 1. C'est du jamais vu. Pour la première fois de son histoire, la radio est en grève. Les salariés protestent contre la mise à pied d'un journaliste. Tout ça sur fond de plan de départ et de rapprochement avec la chaîne de Vincent Bolloré, CNews. Olivier Samin, délégué général SNJ à Europe 1, répond à Alexandra Hakoun.
Nous considérons qu'elle est totalement injuste et disproportionnée. Et la dernière illustration en date d'un management de plus en plus dur et qui se durcit au fur et à mesure que le projet de colonisation d'Europe 1 par Bolloré avance. Notre direction n'a pas pris visiblement la mesure du malaise profond, de l'inquiétude et du désarroi même de beaucoup de salariés de l'entreprise, en particulier des journalistes, qui ne s'imaginent pas travailler dans une radio qui sera arrimée à CNews quand on connaît l'ancrage et l'activisme politique que pratique CNews depuis quelques années.
On sent comme un étau qui se referme sur nous et on a envie de se battre, résume aussi un membre de la Société des rédacteurs d'Europe 1. La grève doit durer jusqu'à lundi matin 10h. Un nouveau président en Iran a été élu au premier tour, annonce Hassan Rouhani, le sortant, sans donner le nom du vainqueur, mais le favori, l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi, ne fait aucun doute. Résultat officiel attendu dans les minutes qui viennent, la grande inconnue, c'est bien sûr la participation. Le pouvoir en place à Téhéran a tout tenté pour la doper, asseoir la légitimité de son candidat, mais le pays est rongé par la crise sociale, la crise économique, marquée aussi par la désillusion du mandat du modéré Rouhani qui avait promis plus d'ouverture et de liberté. Bref, l'abstention menace de battre tous les records. Enfin, après Bob Dylan, après Neil Young, voici la French Touch sur la liste. Came the truth. My screams is the proof. Them other dudes get the goose. So I speed in the coupe, leaving this interview. It ain't nothing new. I've been fucking with you. Bon, la voix de Nicki Minaj, mais le mix d'un certain David Guetta, le DJ français, qui a accepté de céder son œuvre à Warner Music pour
quelques dizaines de millions de dollars.
100 millions de dollars.
La French Touch dans le sport, c'est maintenant.
Avec du rugby et La Rochelle écrit l'histoire. Cette victoire sur le Racing 92 hier 19-6. La Rochelle en finale du top 14 pour la toute première fois. La liesse chez les supporters comme ici dans le quartier du Gabu où s'est rendu Julien Morcelli de France Bleu.
Pas besoin d'attendre le coup de sifflet final pour voir les supporters déclarer la victoire. Le bar est plein. Au beau milieu, Bernard, venu avec Claude, sa maman.
Très, très, très content. C'est une très belle saison. Quand on pense où était La Rochelle il y a 5 saisons, que cette année, ils sont finale de Coupe d'Europe. Il y a une véritable effervescence et que La Rochelle est une vraie ville de rugby.
Vous aussi, madame, vous avez l'air de l'avoir bien vécu cette soirée.
J'aime le rugby depuis 60 ans. J'en ai 68.
C'est vrai, vous avez mis le bandana autour du cou.
Ah oui. Il y a un très bon état d'esprit. Pas de méchanceté. C'est formidable. Et ouais. Ça fait du bien à tout le monde.
On est vraiment tous ensemble, c'est une vraie famille, il y a une vraie solidarité et c'est un vrai message humaniste au fait à travers ce sport. Et c'est de la fête, c'est du partage.
Et en face, le propriétaire des lieux joue les speakers.
Attention les gars, il y a Radio France Bleu.
C'est une belle soirée.
C'est génial, regarde les gens. On a eu tellement de mal à rouvrir que maintenant, t'as vu, les gens, ils bougent pas, il y a personne.
Il y a aucun débordement.
Il n'y a rien, voilà, c'est bon. Génial. Les gens, ils sont heureux et ça c'est l'essentiel.
Et voilà la finale pour La Rochelle qui affrontera le vainqueur de Toulouse-Bordeaux-Bègles. Ce match-là se joue ce soir, la finale du top 14. Elle, c'est pour samedi prochain. On a parlé du match du jour. L'Euro de foot, bien sûr, le Hongrie-France plutôt. On l'a dit, les Hongrois jouent à domicile devant des milliers de fans. Dans Esprit Sport ce matin, on se pose une question. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Les supporters ont-ils vraiment tant d'influence que ça sur les résultats de leur équipe?
Eh ben, apparemment pas tant que ça. C'est ce que montrent de récentes études. Vous savez, la période de la pandémie, les stades vides ont donné une occasion mais unique aux chercheurs d'analyser le phénomène en profondeur. Quelle est l'influence réelle des cris des supporters sur le résultat de leur équipe ? Parce que normalement, quand on entend ça, on se dit ça galvanise le public. C'est le 12e homme dans une équipe de football. De fait, on gagne davantage à domicile qu'à l'extérieur. Sauf que, sans public, on continue de gagner à domicile. À peine 4% de victoires en moins à la maison, dans un stade silencieux. C'est le résultat d'une étude menée durant plusieurs années sur plus de 40 000 matchs au sein de grandes nations, de 6 grandes nations du football, dont l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne ou encore l'Italie.
Alors, si ce n'est pas le public, Laetitia, qui fait gagner à domicile, c'est qui? Ou plutôt, c'est quoi?
C'est difficile d'avoir une recette magique, bien sûr, les vibrations, l'alchimie, mais il y a quelques facteurs identifiés. Déjà, tout simplement, à domicile, les joueurs sont un petit peu en meilleure forme physique, puisqu'il n'y a pas la fatigue liée au déplacement. Et les chercheurs remarquent aussi une sorte de fierté, de sentiment de défense de territoire, on va dire, de fierté devant les supporters, parce qu'il y a des études qui montrent que le taux de testostérone des joueurs de football augmente davantage, c'est vrai, avant les confrontations à domicile qu'avant les matchs à l'extérieur. C'est ma statistique favorite sur cette étude.
Il faudrait peut-être faire l'étude sur les footballeuses, ça serait pas mal. En revanche, la clameur des supporters, elle, ça, Laetitia, elle a une influence sur les arbitres.
Et oui, alors, si vous faites regarder le même match à un groupe d'arbitres avec et sans la bande-son, la réaction va être un petit peu différente. Il y a davantage de fautes sifflées pour l'équipe qui accueille quand il n'y a pas les cris des supporters. Donc, on remarque en fait qu'ils subissent une certaine influence, plus ou moins consciemment, une certaine pression. Il y a une chose de sûre en tous les cas, cas, hein, que les résultats, enfin que les cris des supporters aient ou non une influence réelle sur les performances, bah, les joueurs sont très très heureux de les entendre à nouveau dans les stades.
Bon bah, et au cas où vous ne sauriez toujours pas, hein, le Hongrie-France c'est à 15h tout à l'heure. Merci Laetitia Bernard. Tout dernier mot, le basket, les Françaises s'imposent de 20 points face aux Tchèques, deuxième match de l'Euro, 71-51, et puis performance cette nuit quand même, l'Américain champion olympique en titre, Ryan Crouser qui signe le record mondial du lancer de poids, un jet à 23,37 m. Je crois que je ne me rends pas bien compte ce que ça peut faire.
Je
ne
me rends pas compte du poids.
Ça fait 30 ans qu'il n'avait pas été battu.
Eh bien voilà, merci Laetitia pour la précision.
Et Hélène Roussel pour le journal, 8h15, le temps de ce samedi.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
En un mot, orageux, Jean-Michel Golinski.
Des orages violents en vue aujourd'hui sur une large partie du pays. Pour le moment, 27 départements entre le nord de la Seine, la Meuse, la Bourgogne, le centre, l'Orne et la Sarthe sont placés en vigilance orange orage, une vigilance qui évoluera au fil des heures, et le Rhône l'est toujours pour la canicule. Des orages survolent actuellement le nord de l'Aquitaine, vers le centre Val-de-Loire, mais ils sont en perte de vitesse. C'est surtout cet après-midi et ce soir que l'activité orageuse va s'amplifier entre le quart sud-ouest, le centre Val-de-Loire et du bassin parisien aux frontières belges et luxembourgeoises, progressant la nuit prochaine vers l'Auvergne, l'Allemagne et la Suisse, des orages au caractère très violent. Avant les orages, l'ambiance va devenir de plus en plus moite dans les températures chaudes à l'est, avec 33 à Marseille, 34 à Lyon et Strasbourg, 36 à Grenoble et 37 à 38 sur la Corse du Sud. Des températures qui vont baisser sous les orages de la partie ouest.
Jean-Michel Golinski, Météo France.